l'esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé science faux, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer. De connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Allez, danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. On y fait venir...
Il semble, mais moi je n'ai jamais essayé, mais il semble que quand on boit de l'eau pendant 3 ans, on devient complètement gaga.
Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos 6 boulots, ce qu'on nous sert, c'est comme il faut. Danse, danse, ma jolie.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissance, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir.
Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse, celui qui danse chemine.
Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Jeff Vandenstein.
Mesdames et messieurs, avant qu'il y avait des bières d'abbaye, on doit avoir des abbayes. La bière vient après. Donc, je dois commencer avec la fondation de la première abbaye en Europe et dans le monde. Et c'était en Italie. C'était un certain monsieur, Benoît de Nursie, qui voulait vivre seul comme ermite dans la montagne, mais qui a très vite compris qu'un homme n'est pas créé pour vivre seul. Et il a essayé de faire autre chose, de vivre seul, mais en communauté. C'est difficile à comprendre, mais enfin, hein, c'est ça que les moines font. Hein, ils vivent seuls, mais en communauté. Et il a donc inventé ce qu'on appelle maintenant les abbayes. Il a fondé la première abbaye en l'année 520 en Italie, sur une montagne, Monte Cassino, entre Rome et Naples. Là, il a cherché des jeunes hommes qui avaient les mêmes idées que lui. Il a fondé la première abbaye. Il a écrit aussi une règle, la règle de Saint-Benoît, et tous les abbayes bénédictines doivent maintenant encore suivre les règles que Saint-Benoît, enfin il n'était pas saint à ce moment-là, hein, mais que ce Benoît a écrit. Donc, ce règle ne m'intéresse pas, sauf une petite chose. Qu'est-ce que boivent les moines? Eh bien, parce que Monte Cassino se trouve plus sud que Rome encore, il a décrété que pour les moines, il n'y a que deux boissons. L'eau et le vin, évidemment. L'eau et le vin. Et quand les abbayes ont démarré, les abbayes bénédictines ont démarré, ils ont dû déménager petit à petit vers le nord, parce que vers le sud, c'était impossible. Le sud de l'Italie, et après, vous avez l'islam. Là, ça ne marchait pas. Hein? Donc, les abbayes ont dû venir chez nous, vers le nord. Et je ne connais pas les dates exactes des premières abbayes bénédictines en France, mais en Belgique, je sais que les deux premières abbayes qui sont fondées en Belgique, abbayes bénédictines, étaient dans l'année 650. Une à Malmedy et une à Stavelot, donc dans la partie francophone de la Belgique. C'est peut-être intéressant de dire que moi, je suis néerlandophone, je suis flamand, donc quand je dis des bêtises en français, excusez-moi. Hein, pour mal français, c'est ma quatrième langue. Hein, non, troisième. Après l'allemand, parce que l'allemand est plus facile pour un flamand, c'est plus facile que le français. Donc, les premiers abbayes sont arrivés en Belgique, 650, Malmedy et Stavelot. Ils n'existent plus maintenant, sont des ruines. Mais, petit à petit, les moines bénédictins arrivent chez nous, dans le nord. Et là, se pose un problème. Ils doivent boire ou bien de l'eau, ou bien du vin, bien de l'eau, pas de problème. Hein? Il y a spa chez nous. Mais le vin, ça pose des problèmes. Il n'y avait pas de vigne dans le nord. Donc, les moines ont essayé d'abord, ils ont essayé de planter des vignes eux-mêmes et de faire du vin eux-mêmes. Mais le climat n'est pas, et à ce moment-là, le climat n'était pas comme aujourd'hui, est encore plus froid qu'aujourd'hui. Maintenant, on est en train de réchauffer la terre. Hein. Et donc, ils n'ont pas réussi. Les historiens, moi je ne suis pas historien, je suis brasseur, mais les historiens ont calculé que le vin réussissait environ une année sur cinq. Donc ça veut dire, les autres quatre années, ce n'était plus du vin, c'était du vinaigre plutôt. Donc, pas agréable à boire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les moines? Ils ont cherché un autre boisson. Parce que boire de l'eau tout le temps, c'est pas amusant, hein, ça. C'est pas beau pour la santé non plus. Pas maintenant, mais à ce temps-là, encore moins, parce que l'eau était polluée dans ce temps-là. Pollué d'une autre manière qu'aujourd'hui, mais quand même pollué. Et les grandes maladies du Moyen-Âge, par exemple, la peste venait quand on buvait de l'eau qui n'était pas 100% en ordre. Hein. Donc l'eau n'était pas bon, le vin, il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'on fallait boire? Ben, ils ont vu que les habitants autour de leur abbaye, donc les habitants, les peuples du Nord, buvaient un espèce de vin, mais qui était fait avec de l'orge. Ils ne connaissaient pas le mot bière encore, parce que le mot bière est très jeune. Hein. Le mot bière est un mot du XIVe siècle. Avant, on disait cervoise. Et cervoise, l'ancien mot cervoise, vient du latin, cerevisia. Qu'on trouve encore en Espagne, cerveza, ah bon, donc cervoise. Donc, ils voyaient que les habitants de la région buvaient quelque chose qui n'était pas de l'eau, quelque chose où il y avait un peu d'alcool dedans, hein, très peu, comme dans le vin. Le vin n'était pas comme aujourd'hui, hein, à ce temps-là, peu alcoolisé, eh bien, la bière aussi. Donc, ils ont fait la connaissance de la bière chez les habitants, mais c'était interdit de boire, parce que la règle de Saint-Benoît disait ou bien de l'eau, ou bien du vin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à boire de la bière, mais en secret. C'était défendu, en secret. Et ils ont fait ça jusqu'à l'an 800. Et heureusement, l'an 800, Charlemagne est venu. Charlemagne, qui avait son château à Aix-la-Chapelle, hein, le nord, et Aachen, pour les Allemands, ici. Aachen. Et Charlemagne était grand buveur de bière. Et il s'est demandé, mais pourquoi les moines ne peuvent pas boire de la bière? Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça en secret? Et à ce moment-là, les empereurs avaient le pouvoir aussi sur l'Église. Et c'est Charlemagne qui a dit au pape à Rome, pourquoi? Et le pape a dû dire, ben, quand il n'y a pas de vin, ils peuvent. Donc, depuis l'an 800, les moines peuvent boire de la bière, officiellement. Autre problème, dans la règle de Saint-Benoît est écrit que les moines doivent vivre des fruits de leurs propres mains. Ça veut dire, c'était des agriculteurs, ils cultivaient tout ce qu'ils avaient besoin, ou presque tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Donc, ils faisaient leur vin lui-même. Du moment qu'ils peuvent boire de la bière, c'est normal, qu'ils vont essayer de faire de la bière eux-mêmes. Eh bien, la première abbaye dont on est sûr qu'ils avaient une brasserie, qu'ils ont commencé à brasser de la bière, c'est l'abbaye de Saint-Gall. Saint-Gall, c'est une ville maintenant en Suisse, le côté allemand de la Suisse. Là, on a la première preuve que les moines ont commencé à brasser de la bière. Et immédiatement, ils ont commencé à brasser, pas une ou deux, mais trois différentes bières, immédiatement. Pourquoi trois? Parce que l'abbaye, dans l'abbaye, l'organisation d'une abbaye était comme l'organisation du pays. Il y avait des classes. Hein. Dans les abbayes, il y avait à ce temps-là trois classes. Il y avait les frères, il y avait les pères, et puis il y avait les pères qui dirigeaient l'abbaye. C'était donc trois différentes classes. Pour les frères, c'était qui les frères? C'était des gens simples, des fils de gens simples qui ne pouvaient pas lire, qui ne pouvaient pas écrire, mais qui pouvaient travailler la terre. Hein? C'était les gens qui travaillaient avec leurs mains, et qui, surtout pendant l'été, avaient grand soif. Et pour eux, on brassait une bière très simple, une bière très légère, parce que quand on a soif, il faut boire beaucoup. Voilà. Une deuxième bière, c'était pour les pères. Les pères étaient des fils des gens déjà mieux situés. C'était des jeunes hommes qui avaient étudié, qui pouvaient écrire, qui pouvaient lire, qui étaient souvent des prêtres, qui pouvaient faire les messes, les saintes messes, etc. Et eux, ils travaillaient aussi, mais pas comme les frères. Hein. Eux, ils travaillaient surtout dans l'église. Hein. Ils faisaient les messes, ils chantaient des hymnes, etc. Et ils écrivaient. Dans le scriptorium, il écrivait à la main des livres, etc. Donc, ils avaient soif, mais beaucoup moins que les frères. Donc, pour eux, on brassait une deuxième bière qui était un peu plus forte déjà, plus alcoolisée déjà, parce qu'on buvait moins. Et quand on boit moins, on peut boire une bière qui est un peu plus forte. Hein? Voilà. Et la troisième classe, c'était les dirigeants, le père abbé. hein, le père abbé, le prieur et tout, le cellerier comme le cellerier le plus connu dans le monde entier, je pense, c'est Dom Pérignon. Hein? C'était le cellerier de l'abbaye bénédictine d'Auvillers, en Champagne. Voilà. Bien. Tous ceux qui dirigeaient l'abbaye, ils recevaient souvent des gens importants. Ils recevaient la noblesse de la région, etc. Et pour eux, on brassait une troisième bière, la bière la plus alcoolisée, donc la meilleure bière de l'abbaye. On disait, dans le latin de l'église de ce moment-là, Optimo Bruno, la meilleure brune. Parce que les bières dans le temps étaient toutes brunes. Voilà, trois bières. La bière ordinaire pour les frères était 2-3% d'alcool. Donc la bière des pères était environ 5, et disons que la meilleure était 6-6,5. C'est pas beaucoup, hein? Ah non, ça va pas. Maintenant, en Belgique, on brasse des bières jusqu'à 12 degrés d'alcool. Ah, c'est autre chose. Hein. Mais j'en arrive. Hein. Les trappistes n'existent pas encore, hein, maintenant. Je suis encore dans l'année 820. Maintenant, toutes les bières d'abbaye en Belgique, on a encore trois sortes. Une simple, une double et une triple. Eh bien, la tradition des trois bières a démarré à ce moment-là. C'est donc une tradition qui date de 820, qui existe encore maintenant. Plus que 1000 ans, cette tradition existe. Voilà, nos pères ont démarré 820. Quelques questions que vous ne posez pas, donc que je pose moi-même. C'est toujours plus intéressant de poser les questions moi-même. Ainsi, je peux poser des questions dont je connais la réponse. Hein. Voilà. Bonne question. Les Perses, 820 et les années après, quand ils commençaient à brasser de la bière, qui leur a appris ça? Parce que brasser de la bière, c'est pas si simple, vous savez. Il faut s'y connaître. Eh bien, la réponse. Oui, ils brassaient avec de l'eau bénie. Hein. Oui. Mais ils ont appris à faire de la bière, mesdames et messieurs, par les dames. Donc, ce sont les dames qui sont à la base des blés d'abbaye. Allez, un petit applaudir, hein, les dames. Il faut savoir que jusqu'environ l'an 1000, l'art de brassage, les brasseurs, c'était les femmes. Il n'y avait pas encore de brasserie. Les brasseries ont démarré quand les villes ont démarré. En ville, c'était impossible que tout le monde brassait sa bière. Mais dans les villages, à la campagne, comme ici, hein, c'était dans ce temps normal que dans toutes les familles, les femmes brassaient de la bière pour leur famille. Donc, les connaisseurs de bière, c'était les femmes à ce moment-là. Ils ont donc volé l'art de brassage avec leurs yeux, ce qui est permis par l'Église. Hein, voler avec les yeux est permis. Et très vite donc, très vite, ils ont commencé à faire de la bière eux-mêmes. Et, mes excuses aux dames maintenant, mais quelques années après déjà, la bière des pères était meilleure que celle que faisaient les femmes en famille. Voilà. Mais pourquoi? Eh bien, parce que les possibilités des moines étaient plus amples, plus grandes que les possibilités des femmes à la maison. Commençons avec l'ingrédient le plus important de la bière. C'est de l'eau. Voilà. Maintenant, je me force à parler français. 90%. Parce que normalement, en Belgique, on dit 90. Hein? Voilà. Donc 90% de la bière, c'est de l'eau. Donc la qualité de la bière dépend beaucoup de la qualité de l'eau. Eh bien, les abbayes étaient toujours placées ou bien à une source, ou bien au début, en haut, au début d'une rivière. L'eau de la source, c'est une bonne eau. Et quand on prend l'eau de la rivière, c'est meilleur en haut qu'en bas. La population vivait en bas, où l'eau n'était plus bonne. Les pères en haut, où il y avait de bonnes eaux. Donc, déjà l'eau était meilleure. Deuxième ingrédient, de l'orge. Pour avoir une bonne bière, il faut pas mal d'orge. Eh bien, dans les familles, l'orge et les autres grains étaient d'abord pour faire le pain. Et quand il y avait encore un peu qui restait, eh bien, ça, c'était pour la bière. Mais nos moines pouvaient demander 10% de tous les grains que cultivaient les agriculteurs dans la région. Eh bien, eux, ils avaient donc toujours beaucoup, beaucoup de grains. Et voilà. Mais aussi, ce qui est très important, ils pouvaient écrire que la population ne pouvait pas. Et le moine qui faisait de la bière, le moine brasseur, donc, qui faisait de la bière, il écrivait tous les ingrédients. Il écrivait les températures. Il écrivait les temps. Et quand la bière était très bien réussie, il pouvait regarder dans son livre « Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là » Et quand la bière n'était pas bonne, il pouvait regarder aussi « Qu'est-ce que j'ai fait là ?» Il pouvait dire « Comme ça, je ne fais plus jamais. » Et ainsi, très vite, les moines ont amélioré l'art de brassage. Et encore quelque chose de très important, la bière devenait, dans ce temps-là, très très vite, aigre. Eh bien, quand on boit de la bière aigre, c'est pas agréable. Et ce sont les moines qui ont inventé une méthode pour pouvoir conserver plus longtemps la bière sans que ça devienne aigre. Très simple, ils ont commencé à ajouter de l'houblon. Le houblon, qui est dans toutes les bières aujourd'hui encore, hein, le houblon, c'est vraiment ça qui a amélioré la conservation de la bière. Et donc c'est grâce aux moines qu'on a la bière maintenant, comme elle est maintenant, et bien c'est grâce aux moines qui ont inventé ça. Et voilà, l'an 1000 environ, quand les villes ont démarré, hein, quand les villes ont commencé, les brasseries sont commencées et les femmes n'étaient plus les brasseurs. À ce moment-là, on brassait des plus grandes quantités. On devait donc avoir plus de force parce que le mot en français « brasser » veut dire « travailler avec vos bras ». Et à ce moment-là, c'est devenu un métier pour les hommes. Les bénédictins ont ainsi brasser de la bière jusqu'à leur abolition pendant la Révolution, tout le temps. Après la Révolution, ils n'ont jamais recommencé. Mais heureusement pour nous, une partie des bénédictins sont devenus des cisterciens. L'an 1098, à Citeaux, en Bourgogne, on a une réformation dans les bénédictins et on a là fondé la première abbaye des Cisterciens. Pour la bière, les Cisterciens n'ont pas tellement intéressant, mais en 1664, en Normandie, de nouveau, on a changé les règles des Cisterciens dans une abbaye à Soligny. Et là, on a créé deux espèces de Cisterciens. Les Cisterciens normal, disons, mais les cisterciens de la stricte observance, fondés à Soligny, en Normandie, 1664. Le fondateur s'appelle, faites attention, Jean Armand le Boutillier de Rancey. Eh bien, monsieur de Rancey devait dire oncle au cardinal Richelieu. Donc, il était d'une famille de noblesse, disons, très haute. Et lui, qui vivait pendant sa jeunesse dans tout le luxe possible, il est devenu moine et il s'est dit, les règles de Saint-Benoît ne sont pas strictes. Je veux des règles qui sont encore plus sévères. Et c'est lui qui a donc écrit des nouveaux règles pour les cisterciens, et ça sont donc devenus des cisterciens de la stricte observance. Maintenant, on dit les trappistes, maintenant. Mais à ce moment-là, c'était des cisterciens de la stricte observance. Ils mangent très peu, très très peu, et ils ne peuvent pas manger de la viande, parce qu'ils doivent manger comme les gens pauvres dans ce temps-là. Donc, c'est un ordre qui vit très strict, qui est très sévère. Et par exemple, qu'est-ce qu'ils boivent? Eh bien, la règle de Saint-Benoît disait ou bien l'eau, ou bien le vin dans le sud, ou la bière dans le nord. Chez eux, pas de choix, de l'eau. Pour comprendre le non-trappiste, petite explication, les bénédictins, les cisterciens, peuvent sortir de leur abbaye. Ils peuvent se promener en ville. Ils peuvent visiter les veuves. Etc. etc. Eh bien, de Rancet, qui comprenait ce que n'était pas bon pour les moines, a dit non. Les moines, dans mon abbaye, doivent rester dans l'abbaye toute leur vie. Et c'est de ce règlement que vient le nom trappiste. Parce que avant, les habitants de Soligny, donc le village Soligny, voyaient les moines se promener dans les rues. Et après le changement de règles, ils ne les voyaient plus. Et le peuple disait, mais qu'est-ce que c'est devenu avec cette abbaye ? Cette abbaye est devenue une trappe, parce qu'ils ne sortent plus. Et d'où le nom pour une abbaye, une trappe. Et les moines qui vivaient dans cette trappe sont devenus des trappistes. Et voilà l'explication du nom. Mais en réalité, sont des cisterciens de la stricte observance. Et voilà.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Jeff Vandenstein.
3 ans plus tard, il y avait dans l'abbaye à Soligny une espèce de révolution. Donc une révolte contre le père abbé, ce qui n'est pas normal, hein. Le seul problème, c'était le boisson, l'eau donc. Et donc, les moines se sont révoltés et ils ont dit au père abbé, bon, vous pouvez changer les autres règles. On veut vivre encore plus strict, plus sévère, si c'est nécessaire. Mais l'eau, c'est impossible. Il nous faut quand même une deuxième choix. Et à ce moment-là, de Rancet a compris qu'il devait faire quelque chose. Il a dit, ok, on va changer le règle sur les boissons, et au lieu d'un boisson, vous avez le choix entre 3. 1, l'eau. 2, le lait battu. Le petit lait. Et le troisième choix. Il n'a jamais dit ce qui était le troisième choix. Il n'a jamais dit le nom. Mais il a dit le boisson populaire de la région. Donc ça veut dire le boisson que les gens pauvres de la région boivent tous les jours. Donc le cidre. Et voilà, d'un coup, à Soligny, dans la maison mère des Trappistes, on fait du cidre. Mais les moines doivent vivre des fruits de leurs propres mains. Ils cultivent les pommiers, ils font le cidre, mais il y a toujours des choses qu'on ne peut pas faire, qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Donc ils avaient besoin d'un peu d'argent pour pouvoir acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Bon, eh bien, vendre le cidre dans ce temps-là était presque impossible. Ah oui, parce que tout le monde faisait le cidre à la maison, eux-mêmes. Donc, les moines ont dû inventer quelque chose pour pouvoir vendre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben, le cidre, tout le monde le fait lui-même, mais distiller le cidre, ça c'est plus compliqué. Les familles à la maison ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est nous, on va faire ça. Et donc, les moines trappistes à Soligny ont démarré une distillerie où l'on distille le cidre et on en fait le calvados. Et ça c'est très intéressant. C'est un ordre très strict, un ordre très sévère, avec des moines qui vivent très simple, mais pour pouvoir vivre, ils font un produit de luxe. Un produit de luxe qu'ils ne peuvent pas boire. Hein? Oh, eux-mêmes, ils ne peuvent pas boire ça. Sauf peut-être le moine qui distille. Hein, mais pour vendre, pour pouvoir vivre. Et ça, on va trouver chez les trappistes dans tout le monde. Donc, les trappistes ont démarré et l'ordre, enfin, l'idée avait beaucoup de succès au XVIIe. Et partout en France, il y avait des jeunes qui voulaient devenir pères trappistes. Et donc, on a dû organiser un peu partout en France des abbayes trappistes. Et surtout vers le sud. Parce que ce sont des fermiers. Et dans le sud, où il fait plus chaud, hein, c'est plus facile d'être fermier que dans le nord où il pleut tous les jours. Et ainsi, par exemple, ils ont fondé plusieurs abbayes en Provence. Et en Provence, qu'est-ce que les pères trappistes doivent boire là-bas? De l'eau, c'est en Provence de l'eau aussi. Hein? Le petit lait, c'est le petit lait aussi, mais le boisson populaire, c'est le vin. Eh bien, là, les moines trappistes ne font pas de cidre, ils font du vin. Et la question, de nouveau, comment gagner un peu de sous? Eh bien, distiller leur vin, et ainsi ils ont créé des alcools, par exemple, distillation de vin qui commence avec Armagnac. Voilà, le B ne compte pas. Avec une C, cognac, etc. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? Que les pères, qui doivent vivre très très simple, font des produits de luxe. Et pas seulement les trappistes, hein, pensent aux bénédictins qui ont inventé la bénédictine, les chartreux qui ont inventé la chartreuse, etc., etc. Donc c'est toujours la même question. Ils sont des moines, ils vivent très simple, mais ils doivent gagner leur vie. Et pour gagner la vie, pour avoir beaucoup d'argent, sans beaucoup travailler, très important, on fait des produits de luxe. Et voilà. Et donc, mesdames et messieurs, les trappistes, quand il y avait les abbayes un peu partout en France, il n'y avait plus de place, ils ont dû aller dans d'autres pays. Et donc, à un moment donné, les trappistes sont arrivés en Belgique. Et le premier abbaye en Belgique s'appelle Westmal. Et là, quand les moines sont venus, les moines français, hein, sont arrivés là, ils devaient se poser de nouveau la même question. Qu'est-ce qu'on boit ? De l'eau. Et là, pas de petit lait, mais lait battu. Parce que c'est en Belgique. Voilà. Mais évidemment, le boisson populaire en Belgique, ça a toujours été la bière. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Pas seulement boire de la bière, mais parce qu'ils doivent vivre de leurs propres mains, ils ont dû faire la bière eux-mêmes. Et donc, pour pouvoir suivre les règles de leur fondateur, de Rancé, ils ont commencé en Belgique à faire, à brasser donc de la bière. Mais malheureusement, à ce moment-là, on a la Révolution française. Hein? 1789. Hein? 500 après, 1794, l'armée française envahit les Pays-Bas autrichiens. Les Français gagnent la guerre et on devient donc des citoyens. Pendant la période après la Révolution, on a aboli tous les abbayes. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus d'abbayes. Ça veut dire aussi qu'il n'y avait plus de bière d'abbaye. Voilà, fini. La période française chez nous n'a pas duré trop longtemps, heureusement. Hein? 1815 à Waterloo, Napoléon a été battu hein, par les Alliés. Et donc, on a rattaché la Belgique à la Hollande. Et on a en fait le Royaume-Uni des Pays-Bas. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, le premier roi que nous avons eu n'était pas catholique. C'était Guillaume Ier de la Hollande. Et Guillaume était protestant, comme plus que la moitié des Pays-Bas maintenant est encore protestant. Et donc, il a dit, les abbayes catholiques n'existent plus, eh bien, c'est bien comme ça. On va laisser comme ça. Et donc, pendant toute la période hollandaise, les abbayes n'ont pas pu recommencer leur vie. Heureusement, de nouveau, enfin, surtout heureusement pour la bière, hein, heureusement, la période hollandaise n'a que duré 15 ans. Et en 1830, la Belgique est devenue indépendante. Et la Belgique a eu, à ce moment-là, des lois les plus modernes de ce temps. Entre autres, la religion était libre. Donc ça veut dire qu'on pouvait choisir sa religion. Et ça veut dire aussi que les abbayes ont pu recommencer. Et donc, pas mal d'abbayes, bénédictins, cisterciens, norbertins, mais aussi trappistes, ont recommencé. Mais seuls les trappistes ont recommencé à faire de la bière. Tous les autres n'ont jamais recommencé à brasser de la bière. Ils ont acheté de la bière pour boire, mais ils n'ont jamais recommencé. Mais parce que les règles des trappistes sont si strictes qu'ils doivent vivre de leurs propres mains, ils se sont dit, on doit recommencer la production de la bière. Et donc, il y a maintenant dans le monde 6 abbayes trappistes qui font encore de la bière. 7 abbayes dans le monde hein, qui font encore de la bière. Une abbaye se trouve aux Pays-Bas, très près de la frontière belge, mais enfin aux Pays-Bas, et les 6 autres se trouvent en Belgique. Les trappistes en Wallonie sont les plus connus, sont plus commerçants aussi. C'est Chimay, Orval et Rochefort. En Flandre, Westmal, il y a Westfleteren et il y a Achel. La bière qu'ils produisaient au début, c'était la même bière que tous les brasseurs de la région. Donc la bière trappiste au début, disons en 1830, au début de la Belgique, c'était de la bière comme tous les autres brasseurs. C'était une espèce de bière de ménage 2-3% d'alcool. Très légère, très simple. Et ça a resté tout le temps comme ça, parce que le but de leur brasserie n'était pas de faire de la bière pour vendre, c'était de faire de la bière pour boire eux-mêmes. Et parce qu'ils doivent vivre comme des gens simples, ils brassaient donc une bière très simple. Mais en 1900, donc on est déjà au 20e hein, maintenant, 1919, donc un an après la première guerre, on a eu chez les trappistes un grand changement. Parce que en Belgique, il y avait un ministre qui n'est pas connu en France, je pense, un ministre Émile van der Velde, un socialiste, qui luttait contre l'alcoolisme chez les travailleurs. Et il a très vite compris, la bière n'a rien à faire avec l'alcoolisme. Parce que la bière, à ce moment-là, était de la bière simple. À ce moment-là, la bière moyenne était 3,5% d'alcool. Eh bien, quand on boit une bière de 3,5% d'alcool, on peut boire 10, même 20 verres sans qu'on ait sous. Hein. Mais, à ce moment-là, l'alcool populaire en Belgique était le genièvre. Et quand les gens, dans les bistrots, demandaient une bière, ils demandaient aussi un genièvre. Et le genièvre, c'est l'alcool. Hein. C'est 40 et plus degrés d'alcool. Donc, on ne devenait pas sous de la bière, mais du genièvre. Et c'est une habitude qu'on a maintenant encore, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, on boit encore souvent bier und schnaps. Eh bien, dans tous les pays où l'on a de la bière simple, on boit à côté de la bière d'alcool. Mais, en Belgique, revenant en Belgique, là, le ministre Van der Velde a dit, ben non, quand je veux battre l'alcoolisme, je dois faire quelque chose au genièvre. Et il a voté une loi, 1919, un an après la guerre, qui défendait la vente du genièvre dans les cafés. Et à ce moment-là, on a l'intervention des trappistes. À ce moment-là, les trappistes ont dit, pour pouvoir vivre, pour pouvoir gagner de l'argent, ils nous font un produit de luxe. Et comme les trappistes en Normandie distillent leur cidre et font le calvados, nous, on a besoin aussi d'un produit de luxe. Mais la distillation de la bière, c'est du genièvre. Hein? Et quand la loi a interdit le genièvre, à ce moment-là, ils ont eu une idée. Les trappistes ont dit, les gens qui ne peuvent plus boire du genièvre, ils cherchent quand même un peu d'alcool. Hein? Parce que la vie n'était pas encore comme aujourd'hui. Hein? Il y avait beaucoup de misère encore. Et avec l'alcool, on oubliait. Hein? On peut oublier. Et deux ans après, en 1921, sont les trappistes de Westmalle qui ont créé la première bière forte du monde. Une bière qui titrait, au lieu de 3,5, comme toutes les autres bières, qui titrait 7% d'alcool. Et ils ont donné à cette bière un nom très simple, la Westmalle double. Parce que double, ça veut dire deux fois. Deux fois 3,5, il fait 7. Et donc, ce sont les trappistes qui ont inventé les bières fortes. Comment est-ce qu'on fait des bières fortes? Eh bien, on fait des bières fortes grâce à une invention française, évidemment. Et ça s'appelle la chaptalisation. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les trappistes, en 21? Ils ont chaptalisé la bière. La même méthode que pour le vin. Hein? Mais pas avec le sucre simple. Hein? Mais toutes les bières fortes sont faites avec le sucre candi, qui donne de l'alcool, mais qui donne aussi du goût. Le sucre candi sont des sucres très durs qu'il faut taper avec un marteau. Hein. Ils sont très durs. Encore autre chose, la bière doit mousser. Hein. La bière doit mousser. Eh bien, sont les trappistes qui ont inventé une méthode pour faire mousser les bières, mais une méthode tout à fait naturelle. Et où est-ce qu'ils ont appris tout ça? Ils ont appris tout ça de nouveau en France, en Champagne. Parce que les trappistes qui avaient des livres sur les abbayes du monde entier, aussi des abbayes en France, ils ont lu sur la méthode champenoise inventée par Dom Pérignon. Ils se sont dit, quand ça va, quand ça marche avec le vin, ça marche avec la bière aussi. Et ils ont commencé à faire la méthode champenoise avec leur bière. Et au début, donc les années 20, hein, au début, il y avait marqué sur toutes les bouteilles des bières trappistes, méthode champenoise. Mais évidemment, les viticulteurs en Champagne n'aimaient pas ça. Hein, et ils ont pris des avocats. Et les avocats sont venus en Belgique pour interdire ça. Et donc les moines ont dit, bon, pourquoi pas, hein, pour nous, ça ne fait pas grand-chose. Et maintenant, sur toutes les bouteilles, c'est marqué refermentation en bouteille. Aussi, l'influence, de nouveau, des moines trappistes, mais l'influence de la France aussi, il faut le dire. Et voilà, les bières trappistes étaient donc les premières bières fortes qu'on avait dans le monde, mais aussi en Belgique, évidemment. Et cette bière a connu beaucoup de succès après la Deuxième Guerre. Pas dès le premier moment. Parce que les années 20, et surtout les années 30, étaient des années avec beaucoup de crises économiques. Et c'est normal qu'une bière de 7%, la double, mais après, ils ont créé encore une deuxième type de bière qui s'appelle la triple. Hein, la triple. Heureusement, ils ont fait là une faute de calculation. Parce que 3,5 fois 3, ça fait 10,5. Eh bien, la triple ne titre que 9,5. Hein. Ils n'ont pas calculé tout à fait juste, mais quand même, 9,5, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup d'alcool. Eh bien, les bières avec beaucoup d'alcool, ça coûte beaucoup. Hein. On a besoin de plus de matières premières. Et surtout, les taxes sont plus hautes. Donc les années 20, les années 30, avec la crise économique, les gens n'avaient pas tellement d'argent. Donc les bières fortes existaient, mais ils n'avaient pas de succès. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre, qui s'arrêtait en 1945, à ce moment-là, les bières trappistes, les bières fortes des trappistes, ont connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et là, les autres abbayes, qui ne brassaient plus, hein, les bénédictins, les cisterciens, les norbertins, qui ne brassaient plus, ils voyaient tout ça. Ils se sont dit, mais si on avait encore une brasserie, on pouvait faire des bières fortes aussi, on pouvait gagner beaucoup d'argent aussi. Mais évidemment, c'était trop tard, ils n'avaient plus de brasserie. Et une abbaye, Maretsu. Là, les moines se sont dit, mais pourquoi brasser la bière nous-mêmes? Il y a des brasseries qui peuvent faire ça. Et en 1949, les pères de l'abbaye de Maretsu ont contacté une brasserie commerciale. Hein, et ils ont demandé à ce brasseur, est-ce que vous pouvez faire pour nous une bière? Et on va faire un contrat. Vous pouvez faire cette bière, vous pouvez brasser cette bière, vous pouvez commercialiser cette bière, pourquoi pas, hein, et vous pouvez employer le nom de notre abbaye, abbaye de Maretsu. Et chaque année, à la fin de l'année, on va faire les comptes. Et pour l'abbaye, pour pouvoir employer le nom de l'abbaye, vous nous payez un pourcentage. Eh bien, là, on a donc inventé une espèce de bière d'abbaye qui n'est pas brassée dans une abbaye. Parce que les trappistes, sont des bières d'abbaye brassées dans l'abbaye. Et à ce moment-là, on invente une espèce de bière, une bonne bière, ce n'est pas ça, mais qui est une espèce de mensonge. Et évidemment, au début, il y avait marqué « Abbaye de Maretsu, brassée pour », pas « brassée par », mais « brassée pour ». Donc, tous les gens se disaient « Ah, c'est une bière qui est brassée par des pères, ça doit être bon ». Et immédiatement, ça vendait. Surtout, ça vendait parce que les trappistes ne brassent que pour vivre. Donc, ça veut dire que les trappistes ne brassent pas le plus possible. Ils brassent pour vivre. Et donc, quand leur quantité de litres de bière pour vivre est brassée, ils s'arrêtent. Hein. Donc, presque tout le temps, il nous manque de la bière trappiste, surtout. Les abbayes flamands surtout, Westfleteren, Achel, mais aussi Orval, ça nous manque de temps en temps, parce que les pères ne brassent que pour vivre, ils ne vivent pas pour brasser. Et là, les fausses bières d'abbaye, évidemment, sont faites par des brasseurs laïcs, qui ont des actionnaires, qui veulent gagner beaucoup d'argent, qui ont une femme qui leur coûte, qui ont des enfants qui leur coûtent, qui ont une belle voiture qui leur coûte. Les moines n'ont pas tout ça. Hein. Et donc, ils font de la publicité, ils font de la distribution, etc., etc. Donc, immédiatement, presque immédiatement, ça marchait très, très bien. Et 3 ans après, 52, il y avait 2 autres abbayes qui se disaient... Si Maretsu peut faire ça, nous pouvons faire ça aussi. Et en 52 a démarré la bière d'abbaye la plus connue de Belgique, je pense, la Leff. 52, donc la deuxième. La troisième, Saint-Feuillin. Tous les trois en Wallonie. Et ce n'est qu'en 54, donc 5 ans après Maretsu, qu'une abbaye en Flandre a compris aussi. Hein. C'est l'abbaye de Tongerlo. Et voilà. Et ainsi donc, tous les bières d'abbaye ont démarré. Et toujours, c'est toujours la même chose. Donc, c'est le nom d'une abbaye, mais la bière n'est pas brassée dans cette abbaye. C'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que je compare toujours les bières d'abbaye avec les vins mousseux. Hein? On ne peut pas comparer les bières avec les vins. Hein? Parce que le vin n'a pas de bulle. Hein? Le vin rouge, le vin blanc n'a pas de bulle. Donc, on doit comparer avec ou bien le champagne ou bien les vins mousseux. Eh bien, pour moi, les bières d'abbaye sont les vins mousseux. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits un peu partout en France. Les trappistes, c'est autre chose. Hein? Parce que les trappistes ne sont faits que dans les abbayes trappistes. Eh bien, ça, pour moi, c'est le champagne. Hein? Parce que le champagne n'est fait qu'en champagne. Et donc, la bière trappiste est donc une espèce de AOC, d'appellation d'origine contrôlée. Quand on voit le nom Orval, on est sûr que cette bière est faite dans l'abbaye d'Orval. Les bières d'abbaye ne sont pas d'AOC. Hein, parce que là, quand c'est marqué Maretsu, la plupart des gens ne savent pas d'où cette bière vient. On a donc l'AOC des trappistes et les bières d'abbaye n'ont pas d'AOC. Hein. Ni les bières d'abbaye, ni les trappistes sont une sorte de bière. Parce que dans les trappistes, dans les bières d'abbaye, on a des blondes, on a des brunes et on a des ambrées. Donc un peu entre les deux. Ça commence à environ 6%, 6,2% l'Orval et ça s'arrête à 12%. La Rochefort 10 ou la Westfleteren 12 ont 12%. Il y a des bières trappistes qui sont douces, mais il y en a aussi qui sont amères. Donc il y a tellement de couleurs, tellement de taux d'alcool, tellement de goût, ce n'est donc pas une sorte de bière. Hein, c'est une AOC pour les trappistes et pour les autres. C'est un ensemble de plusieurs espèces de bières, mais... Il y a quand même des choses qui ont tous ces bières en commun. Par exemple, La bière Pils est faite en basse fermentation. Basse fermentation, ça veut dire que la fermentation se déroule à environ 8-10 degrés. Donc une température basse. Eh bien, tous les bières d'abbaye, tous les trappistes sont des bières de haute fermentation. Haute fermentation, c'est la fermentation qui est plus âgée, qui existe depuis plus longtemps que la fermentation basse, et qui se déroule à environ 20 jusqu'à 24 degrés. Donc plus chaud. Et c'est très important parce qu'au Moyen-Âge, on pouvait chauffer avec le bois, avec le charbon, on pouvait chauffer, mais refroidir, on ne pouvait pas. Donc la bière de basse fermentation est inventée au moment qu'il y avait des moyens de refroidir. Ah oui. Deuxièmement, toutes les bières d'abbaye et toutes les bières trappistes sont chaptalisées. Donc on a remplacé un certain pourcentage de malt en sucre. Ils ont beaucoup d'alcool, tous ces bières ont beaucoup d'alcool, donc 6 et plus, et ils sont refermentés en bouteille. Et voilà les choses qui sont spéciales à ce type de bière-là. Ce ne sont donc pas de bières pour boire quand on a soif. Quand on a soif, on boit une pils, une bière blanche, je ne sais pas. Ce sont des bières de dégustation. Dégustation pour le taux quand même élevé d'alcool, mais aussi de bières de dégustation parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de goût et beaucoup, beaucoup de nez, beaucoup d'arômes. Donc, on peut les comparer, hein, on peut les comparer au vin.
L'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos. On apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble, et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots.